En partenariat avec le festival Musique et Cinéma Marseille, Radio Grenouille a réalisé une série d'entretiens de duos de compositeurs et de réalisateurs. En direct du Café Bloom au cinéma L'Artplex.
Et donc nous sommes bien en direct sur ce plateau et nous avons été rejoints par Michael Dichter et Hugo González-Pioli. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Nous vous accueillons sur les ondes du 88.8 pendant que nous sommes en plein dans le festival MCM. Vous participez pour cette 25e édition avec le film Les Trois Fantastiques, dont la sortie officielle est prévue le 15 mai 2024. On va faire quand même une présentation brève pour les personnes qui ne vous connaissent pas juste par votre nom. On va commencer par vous, Michael Dichter. Vous êtes acteur et réalisateur. Les Trois Fantastiques, c'est votre premier long métrage. Dans ce film, on suit la trajectoire de Max, Vivian et Tom, qui sont adolescents et surtout des amis inséparables. Ils vivent dans une petite ville des Ardennes. Ils rêvent d'aller en colo, mais ils n'ont pas tous l'argent pour réaliser ce rêve. Et c'est ce qui va dessiner une trajectoire dans ce film, notamment avec un élément perturbateur. Le casting, il est assez impressionnant. Emmanuel Berco, Raphaël Quenard, donc, qui joue le grand frère. On spoil un peu en disant c'est un élément perturbateur car il sort de prison et c'est pas fini avec les embrouilles. Évidemment, il faut souligner aussi l'incroyable prestation des trois jeunes acteurs, Diego Murgia, Benjamin Tellier, Jean Devie. Le monde des adultes qui contamine celui de l'enfance, c'est peut-être ce que j'ai essayé de synthétiser au travers des Trois Fantastiques. On en a bientôt fini avec ces longues présentations, mais quand même, on va aussi parler de vous, Hugo González-Pioli, puisque vous êtes là, et vous êtes surtout le compositeur des Trois Fantastiques. Vous êtes aussi chef d'orchestre, vous avez réalisé la composition, la bande originale de plusieurs longs métrages. C'est pas la première fois que vous passez au MCM, bien qu'à l'époque c'était à Aubagne, tout proche d'ici.
Oui, c'était dans les premières éditions, il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, ouais.
Oui, alors pas loin effectivement des 10 ans, bah, j'ai la date, c'était en 2006. Vous étiez étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
c'est
Lyon.
Ça, c'est ouais. Ça, exactement. Ouais.
Et vous aviez participé à une masterclass de composition musicale pour l'image, et c'était dirigé par Raphaël Imbert.
Exactement, exactement, vous savez tout.
Vous en gardez un souvenir comment? Ça va, c'est encore frais?
Ah oui, un souvenir incroyable, c'était une super masterclass, on a composé tous ensemble une œuvre qu'on a donnée en ciné-concert. Non, j'ai vraiment un très beau souvenir et c'était un beau moment de camaraderie aussi avec toute l'équipe des musiciens.
Et depuis, bon, la route a été jalonnée puisque vous êtes aussi envolé aux États-Unis pour continuer votre carrière.
Oui, j'ai fait un petit passage, aux États-Unis.
Petit passage, petit.
Non, je suis resté 2 ans pour mes études et j'ai travaillé là-bas également. Ouais. Moi, j'ai fait un master de composition de musique de film et j'ai travaillé, j'étais assistant pour un compositeur là-bas. Et quand mon visa s'est arrêté, je suis revenu en France travailler dans la musique de film.
En tout cas, j'ai un indice qu'en 2018, vous étiez forcément en France puisque vous aviez déjà rencontré donc Michael, il me semble.
Oui, avec Hugo, nous on s'est rencontrés sur... en fait, avant de faire Les Trois Fantastiques, on avait fait un court-métrage qui s'appelait Pollux.
Oui.
Et il y avait déjà ce groupe de copains, enfin ces trois amis dont tu parlais tout à l'heure. Ils existaient déjà, là on leur fait vivre une toute nouvelle histoire. Et c'est la deuxième fois du coup qu'on travaille avec Hugo. Il était compositeur sur Pollux, sur le cours, et évidemment qu'il a été compositeur sur le long.
J'aime bien le évidemment.
Non, je dis évidemment parce qu'en vrai, il est monstrueux. Non, mais la musique qu'il fait, elle est extraordinaire. Sur les Trois Fantastiques, enfin, j'aime tellement sa musique qu'elle est vraiment partout dans le film. Sur 1h30 de film, il y a, je crois, à peu près 1 heure de composition d'Hugo. Et si je pouvais mettre 1h30, j'aurais mis 1h30, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter.
Et est-ce que vous êtes tombé amoureux de sa musique avant de le connaître, ou c'est le fait de faire la connaissance avec Hugo que vous avez découvert après sa musique?
Non, moi, en gros, avec ma femme, on avait un petit resto à Montreuil, un resto du midi. Et il se trouve que lui, il bossait chez Armand Amar, qui est aussi un grand compositeur. Et Hugo venait manger tous les midis dans mon resto. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, donc je savais même pas qu'il était compositeur à la base.
On a commencé à papoter et un jour il m'a dit ah oui, t'es musicien, ça te dirait de faire la musique de mon court-métrage? Bah ouais, carrément. Donc
ah oui.
Ouais, genre vraiment très facile. Ça a été très facile.
Oui, donc c'est finalement le lien humain qui a précédé ce lien professionnel.
Et c'est, franchement, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est à chaque fois le lien humain qui précède l'œuvre de l'artiste.
Et j'aimerais bien parler un petit peu en amont. de vous, ce qui vous a animé personnellement, Michael Dichter, sur, vous l'avez évoqué, Pollux, c'est aussi un trio d'adolescents, c'est la jeunesse quelque part des Trois Fantastiques. Qu'est-ce que vous aviez laissé en 2018 que vous avez eu besoin de reprendre là en 2024, 2023, puisque la production était un petit peu avant?
Ouais. Alors, vous n'avez pas vu Pollux, mais peut-être les Trois Fantastiques. Mais donc, du coup, dans le court-métrage, en fait, il y a trois personnages. Il y a un, enfin, il y a Vivian, Max et Tom. Et dans le court-métrage, c'était Vivian. Ah, dans le court-métrage, c'était Vivian, excuse-moi. Dans le court-métrage, c'était Vivian qui était le personnage principal. Sauf que, à la fin du film, à la fin du court-métrage, je me suis rendu compte, ça c'est. Parfois, tu as des évidences à l'écriture et parfois, tu découvres des choses au tournage et même parfois après au montage. Mais je me suis rendu compte que le personnage qui vivait le plus de conflits, c'était Max et c'était pas Vivian. Et la relation de Max qu'avait avec, qu'a son frère, qui apparaît à peine dans le court-métrage. Donc dans le long-métrage, c'est lui qui est devenu mon personnage principal, parce que en vrai, dans les films, on aime bien s'attarder sur ceux qui vivent le plus de conflits. Donc c'est comme ça qu'est né les Trois Fantastiques, en partant de cette nouvelle histoire-là, de ce nouveau duo.
Et vous, Hugo, qu'est-ce qui vous a séduit, mais d'ailleurs dans ces deux projets?
Forcément,
en dehors de la relation de la...
C'est déjà la place, Michael est aussi passionné que moi de musique de film et de musique en général, donc je sais que pour lui c'est vraiment une importance énorme. Donc c'est quand on rencontre un réalisateur, un ami ensuite, mais un réalisateur avec qui on discute et qui va me dire voilà, je veux une heure de musique dans mon film, je veux qu'il y ait de la musique, je veux que ça nous retourne les tripes, je veux qu'on ressente des choses, je veux qu'il se passe de l'aventure, qu'il y ait des courses-poursuites. Déjà, quand on nous vend le projet comme ça, c'est assez excitant pour un compositeur, parce que on sait qu'on va s'éclater, quoi. Donc déjà, de base, même si ça a annoncé un gros travail de composition, mais c'était quand même un beau projet, vraiment très chouette, quoi, en tant que compositeur.
Et ça sous-entendait aussi que ça vous laissait une grande liberté.
Oui, il n'arrêtait pas de me dire, propose-moi des choses, vas-y, donne-moi... Et c'est très agréable, voilà, on n'est pas enfermé dans...
Non, simplement sur le fait d'être aussi amis dans la vie, c'est ce qui fait aussi qu'on a travaillé sur la musique. Et donc du coup, Hugo avait commencé à composer la musique déjà sur scénario. Donc un an avant le tournage du film, on avait déjà quelques musiques de film. Et
oui.
Alors on habite vraiment pas loin l'un de l'autre.
Ce qui est pratique.
Ce qui est aussi pratique, et on adore passer du temps ensemble. Et moi j'adore l'écouter, composer, écouter ces choses-là. Donc c'est quand même hyper... c'était beaucoup de travail, mais très très excitant, quoi.
Oui, ce qui est assez dingue, bon, pour finir sur ça, c'est que la première musique qui a été composée sur scénario est restée, en fait. Ce qui est quand même assez rare, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs films sur scénario, montage, et voilà, les films peuvent vraiment changer. Et cette musique-là est restée, c'est le...
Ouais,
c'est le
thème... et d'ailleurs, c'est la musique qui clôture le film. Ouais. La première musique qui a été composée par Hugo, c'est la musique qui clôture le film à la fin.
Mais d'ailleurs, d'après vos précédentes expériences, Hugo, est-ce que c'est quelque chose justement d'atypique d'avoir déjà une composition sur scénario alors que rien n'a été tourné, que peut-être le scénario n'est pas finalisé?
Alors, je dirais pas que c'est atypique, c'est de plus en plus rare, parce que bon, je pense qu'en tant que compositeur, on aime bien avoir le montage. Ça crée un cadre, un cadre de travail, et même par rapport au temps, il y a plein de raisons qui font que c'est plus agréable sur le montage, mais dans le cadre d'une amitié avec Michael et d'un travail on se connaît depuis des années, on a fait le court-métrage ensemble, ça se pose même pas. On a travaillé sur le scénario, on a travaillé pendant le montage, à toutes les étapes. Il a diffusé les musiques aux acteurs pendant qu'il tournait.
Oui.
Ouais. Donc, et ça, c'est incroyable. Moi, la dernière la référence que j'ai en tête des gens qui ont fait ça, c'est Ennio Morricone avec Sergio Leone sur les tournages, quoi. Donc c'est.
Je pas sympa. Hein.
Ouais.
C'est clair.
Sans nous.
Mais en tout cas, ça démontre aussi que vous avez une réelle confiance, croyance dans le pouvoir émotionnel de la composition musicale.
Ah ouais, c'est un énorme acteur. Mais tout, l'image, le jeu, le scénario, la mise en scène, évidemment, la musique, tout ça, ça fait qu'un film... Enfin, tu vois, c'est que des étapes que tu peux... Enfin, pas des étapes, comment tu dis ? C'est des couches que tu mets les unes sur les autres, et s'il y a une harmonie qui se crée, t'as tout gagné, quoi.
Là où c'est aussi une affaire de goût, c'est quelle place on laisse à chacun de ces éléments. Effectivement, là, dans Les Trois Fantastiques, la place de la musique, c'est presque une actrice à part entière. Et donc là, vous l'avez énoncé, c'était une volonté dès le départ. Comment on fait pour créer à la fois de la puissance tout en gardant une subtilité, c'est-à-dire que la musique ne prenne pas le pas non plus sur l'image, sur le jeu d'acteur, sur le montage?
Bah, déjà, il y a un énorme kiff de notre part d'écouter la musique très fort tout le temps. Donc au départ, on n'est pas les meilleurs juges. Mais nous, ce qu'on faisait pendant le montage, c'est qu'on faisait des projos mystères. C'est-à-dire qu'avec la monteuse, on invitait à venir voir le film en montage. Et on faisait ça toutes les semaines, des gens qui n'avaient ni vu le court-métrage et qui n'avaient pas lu le scénario. En vrai, des gens qui ne connaissaient pas forcément. Donc c'est des amis, d'amis comme ça. Ça revenait au départ peut-être un peu trop de musique. Et en fait, le trop de musique, c'était juste une traduction de « c'est peut-être un peu fort ».
Et j'aimerais bien d'ailleurs, parce que là on en parle...
Et du coup, c'est corrigé au fur et à mesure. Oui. En fait, au fur et à mesure, après avoir fait 200 visionnages, à un moment tu trouves ton équilibre où le commentaire arrête de ressortir et tu dis « putain, elle est vraiment top la musique ». Puis ok, c'était juste peut-être une question de volume.
Ouais, et de dosage aussi, parce qu'évidemment, l'image respire d'elle-même. Il y a un discours dans ce qu'il a réalisé, donc... On n'a pas besoin de tout forcément souligner, surligner. Donc, ça a été des petits réglages. Il y en a quand même un bon paquet. Mais je pense qu'elle est bien dosée. Et elle a vraiment un vrai rôle dans le film.
Oui, vous l'avez bien expliqué. Parce que c'est vrai que c'est toujours une prise de risque aussi. Quand on a des scènes qui sont d'une réelle intensité, de venir souligner avec notamment des notes orchestrales où tout de suite on prend la place aussi.
Mais bien sûr, c'est
un équilibre.
Oui. C'est un équilibre.
En vrai, c'est un équilibre.
Et donc j'aimerais bien qu'on se fasse un petit temps d'écoute, puisque c'est agréable de parler de musique, mais des fois c'est encore mieux d'écouter aussi la composition.
C'est énorme, vous avez la musique ?
On a sélectionné un extrait.
C'est énorme, c'est énorme.
Alors c'est vrai qu'on ne vous a pas prévenu, donc on vous prend
c'est
un petit peu de cours.
Ouais.
L'extrait qu'on a choisi, c'est la scène du Laser Game. Alors, vous riez. On reviendra un petit peu à.
Bien sûr.
On pourra y revenir de pourquoi, justement, spontanément, ça suscite quand même un éclat de rire. En tout cas, pour remettre dans le contexte pour les auditeuristes qui nous écoutent, il s'agit d'une scène de Laser Game avec Max, Vivian et Tom, sous l'invitation de Seb, le grand frère de Max, qui est donc tout juste sorti de prison, qui n'en a pas tout à fait fini avec les embrouilles et qui essaye plus ou moins de se racheter avec cette scène du Laser Game.
Donc si vous touchez au niveau du ventre, ce sera un point, deux points et trois points ici. Vous allez voir, vous allez vous amuser avec un parcours au top. Sur votre combinaison, vous aurez soit le plafond rouge ou bleu, la détermination de votre équipe.
On va les couilles.
Allez,
faites attention au matériel, s'il vous plaît.
Par contre, vous avez déjà carotté 5 minutes, là.
J'en ai compté 10, on a intérêt à aller voir à la fin.
Ah, bande d'escrocs.
Bon, allez, amusez-vous.
Allez. Je suis pas un projet de la trompette, mais soyez vifs.
Game over.
gueule. Fini ta partie avec tes potes, tu ressors par l'entrée principale.
Tu vas où?
Laisse-moi pas les couilles.
Tiens!
Vous êtes toujours en direct sur Radio Grenouille pour le plateau musique et cinéma Marseille dans le cadre du festival. Nous sommes avec Michael Dichter et Hugo González-Pioli et c'était une séquence du film Les Trois Fantastiques. Cette séquence, c'est la séquence du Laser Game. Elle est assez riche d'un point de vue sonore. Lorsque je vous ai annoncé, avant qu'on diffuse l'extrait, qu'on avait choisi cet extrait-là, vous avez mutuellement explosé de rire. Pourquoi ?
Il y a deux musiques électro dans le film et où vraiment c'était la première fois qu'Hugo s'amusait à faire ça. Donc c'était très très cool à faire. Et on rigolait parce que tout le reste des musiques a été enregistré, tu sais, en studio avec vraiment beaucoup de musiciens, etc.
Et c'est la seule
qui est une musique électro, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc Hugo, c'est un peu ton solo.
Il y a un gros travail, cette séquence, comme tu dis, même au montage son avec Damien, le monteur son, et comment faire marier la musique, la tension, la faire redescendre, ce qui se passe à l'image, de jouer avec les bruitages, moi de jouer avec le côté musical. Et donc il y a un travail très étroit avec plusieurs personnes pour pouvoir créer ce genre de séquence, en fait. On peut pas rester seul à faire sa musique, c'est ce qui est vraiment intéressant.
Et donc pourquoi justement cette entorse de l'électronique là sur la tonalité?
Parce que c'était un désir Laser Game. Je pense que jeune, ça vient aussi faire une rupture avec. Je pense que c'est important d'avoir des ruptures dans certaines séquences dans le film. Et là, c'était quelque chose d'assez dynamique, je pense, sur la séquence.
Et puis, en vrai, le film, il commence comme un buddy movie. Ça commence comme un film de copains à la Stand By Me ou les Goonies, etc. Sauf que très, très vite, on change de genre. Et en fait, dans le film, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer de genre vraiment. Enfin, il y a plein de moments où tu passes du polar au thriller, du thriller, enfin, tu vois, au body movie, au drame, etc. Il y a ce truc-là de changement de genre, mais qui va aussi avec la musique. À ce moment-là, dans le film, on n'est pas à la fin du film, mais on doit être aux deux tiers du film. Il y a une énorme montée d'adrénaline pour tous les personnages qui sont en train de. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent pile à ce moment-là du film. De pouvoir la soutenir avec un truc électro qui est aussi très très lié au Laser Game. Hein. C'est-à-dire que c'est techno, l'univers. Électro, c'est l'univers du Laser Game. C'est ça qu'on est allé chercher avec des inspirations comme Mortal Kombat. donc c'était aussi ça qui était intéressant, de s'amuser aussi avec la musique.
Ce que vous avez souligné là sur Les Trois Fantastiques, de cette pluralité aussi de styles, de genres cinématographiques, on la ressent aussi bien dans la colorimétrie que effectivement dans on prend racine dans quelque chose qui est presque bucolique, c'est-à-dire que c'est un milieu rural, mais il y a la cabane dans les bois avec les trois jeunes, leurs posters, leur côté un peu fantasme d'adolescent, et au fur et à mesure, c'est vrai que ça s'assombrit, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contamination. En lien effectivement avec la criminalité du grand frère, mais pas que, peut-être aussi de cette sortie d'adolescence. Et donc c'est vraiment pensé autant d'un point de vue du son que de l'image, où il y a une tonalité qui monte, ça monte en tension, mais aussi c'est comme si on allait progressivement vers la nuit.
C'est exactement comme ça qu'il a été pensé, le film. On commence vraiment à l'aube, même pas à l'aube, on commence vraiment à midi, c'est-à-dire que le soleil, c'est très très solaire au début du film,
oui.
Et au fur et à mesure on s'enlise comme ça dans les ténèbres, mais c'était voulu que au son, à l'image, oui, même dans les décors, etc., que tout s'assombrisse au fur et à mesure. Et c'est très juste sur ce que tu disais sur ces gamins qui doucement basculent vers l'âge adulte. Tu peux le faire de façon très tranquille, de basculer vers l'âge adulte, mais le mot juste basculer, il y a un truc de. Tu tombes à la renverse, quoi. C'est un truc qui est très très rapide. Enfin, les événements qui leur arrivent leur font.
Ils les font grandir soudainement.
Ça les projette trop rapidement. Et ces deux mondes qu'il y avait, donc le monde des enfants dans lequel ils ont commencé à évoluer, le monde des adultes, qui est là mais qu'on voit pas des masses, à un moment ces deux mondes finissent par, c'est l'upside down dans Stranger Things,
oui.
À un moment les deux mondes finissent par se lier et c'est là que ça devient intéressant, quoi.
C'est intéressant aussi de souligner, de faire le lien avec Stranger Things, parce qu'effectivement il y a aussi ce côté buddy movies et de le groupe adolescent dans leurs interrogations de passage à l'âge adulte, mais bon, Stranger Things arrive à garder presque jusqu'au bout cette naïveté mais qui est presque superficielle, là où c'est vrai que dans
Les Trois Fantastiques, il y a comme un retour de réalité ou un principe de réalité qui rend ce film à la fois accessible pour des adolescents, mais aussi à destination d'adultes. Et je voulais aussi demander, avant qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que vous en avez fini avec les trios, duos adolescents, ou est-ce que prochain long métrage, on retrouvera aussi cette adolescence un peu torturée qui est en questionnement?
Alors sur le prochain film, on retrouvera Hugo.
Ah.
c'est la seule personne qu'on retrouvera. On retrouvera Hugo.
L'adolescence, non.
non, je travaillerai toujours avec Hugo sur le prochain film. Okay. Mais par contre, ce sera plus du tout sur l'adolescence. Je garderai aussi beaucoup de tension, ce qui arrive au fur et à mesure du film dans Les Trois Fantastiques. Mais là, on tombera directement dedans très rapidement. Gros film de genre.
Ok, bon teasing. Et en tout cas, j'ai l'impression que ce projet de long métrage, il semble avoir validé votre collaboration au long cours.
Ah oui, complètement, ouais.
Parce que c'est aussi c'est monstrueux en termes de charge de boulot, un long métrage.
Ah, mais c'est une énorme responsabilité. Et moi, je l'ai senti, même si j'ai travaillé sur deux longs métrages avant, mais c'était en co-compositeur. Là, pour moi, je le considère vraiment comme mon premier long, dans le sens où j'ai senti vraiment une responsabilité énorme à tous les niveaux. Parce que on est beaucoup de personnes impliquées, on veut tous donner le meilleur. Et je pense qu'on s'est bien battu.
Merci Miguel Richter et Hugo González Pioli pour cet entretien.
Merci à toi.
Radio Grenouille 88.8.